Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. » Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Rendez grâce, rendons grâce à Dieu, parce que Saint-Dominique, notre Saint-Père, n'a presque rien écrit. Et s'il a écrit quelque chose, providentiellement, les frères les ont perdus, égarés, oubliés. Mais il faut aussi rendre grâce à Dieu, parce que parmi les bribes de ce qui nous reste de lui, quand même, quelques petites choses, il y a un pourcentage très élevé de ce qu'on appelait, à l'époque, les billets de réconciliation. C'est-à-dire, Dominique écrivait à un curé, à un pasteur, que M. Untel, Roger, parce que c'était son nom, entre autres, Roger était désormais redevenu catholique, il n'était plus hérétique, il avait quitté les cathares et il devait être reçu réconciliés dans l'Église. Qu'est-ce que cela nous dit de Saint-Dominique? Il prêchait. Comme un éducateur, il tentait de déceler les moments et les lieux favorables à la prédication, parce que tous les moments ne sont pas favorables. Par exemple, le matin, avant le premier café, c'est un temps défavorable. Si vous pouvez prêcher ce que vous voulez avant le premier café, je ne me convertirai à rien. Donc, il faut guetter les moments favorables. Puis, Saint-Dominique le faisait en s'appuyant grandement, on le sait, sur l'évangile de Saint-Matthieu que nous avons proclamé, et sur les lettres de Paul. Il était fort peu johannique. C'est tout à son honneur. Il intervenait probablement à temps et à contre-temps. Il disputait aussi, beaucoup. C'était l'époque où on faisait des controverses, où on s'écoutait, on dialoguait, et tout. C'est une époque révolue. Désormais, par exemple, dans l'Assemblée nationale, on s'invective. On n'a plus de controverse. C'est pas la même chose. Il prêchait, il disputait pour faire briller la vérité de l'Évangile de Dieu, un enseignement solide. Et il insistait pour que cet enseignement-là, cet Évangile-là, retentissent non pas simplement au carrefour ou dans les bars ou les auberges tard le soir, mais dans l'Église, puisque c'est dans l'Église que la parole retentit pour faire communauté aussi. Mais s'il faisait tout cela, s'il passait son temps à prêcher, il le faisait pour réconcilier les hommes et les femmes de son temps avec Dieu, pour leur faire vivre le salut, pour les faire vivre de la plénitude de la vie dans l'Église. Et aussi, accessoirement, pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau tout le temps ou d'en faire l'expérience. Prêcher l'Évangile comme ça, en dénonçant, en encourageant, en étant patient, ça n'allait pas de soi à l'époque dans les milieux qu'ils fréquentaient. L'Église, vous le savez peut-être, si vous avez lu un peu sur le XIIIe siècle, l'Église, ses pratiques, la vie des hommes d'Église, était à tout le moins mise en question, fortement critiquée, ouvertement rejeté. Pour plusieurs, l'Église était le contre-exemple, le lieu de tous les scandales, de tous les abus. En anglais, on dirait « Does it ring a bell? » L'Église représentait, avec raison ou non, aux yeux de plusieurs, l'anti-évangile. Et les personnes qui rejetaient l'Église n'étaient pas tous des hurluberlus, loin de là. C'étaient des hommes, des femmes qui cherchaient ardemment à s'engager à fond, à long terme, sur une voie étroite et difficile. Leur quête de l'évangile et de la vie avec Dieu était, pour la plupart, un désir véritable de vivre de la nouveauté de l'évangile, de vivre comme dans les temps apostoliques. Parfois aussi, leur quête était un peu tordue et déformait l'image de Dieu dans l'être humain. Spiritualisation, appelons-la un peu sauvage pour rester poli, qui rejetait l'incarnation, la chair et ses conséquences. Peu importe les difficultés, Dominique prêchait. Il révélait la parole de paix, de consolation, de réconciliation. Il le faisait comme Dieu l'avait fait avant lui dans les temps anciens, comme le Christ Jésus l'avait fait sur les routes de Galilée et de Palestine, comme les apôtres et Paul avaient entrepris de le faire, poussés par l'Esprit Saint. Inlassablement, comme eux, il faisait retentir le cri pascal. Il a tenu le coup, des années durant, presque seul. Il est resté fidèle à l'intuition qu'il avait eue avec son évêque d'Osma, Diego, et avec plus tard celui de Toulouse, Foulc. Il restait fidèle à cette intuition. Et de ce point de vue-là, il prêchait la vérité, oui, mais pas pour le plaisir de prêcher la vérité. Parce que prêcher la vérité, c'est bien, je suis pour, ne vous méprenez pas. Mais prêcher la vérité pour la vérité, c'est comme l'art pour l'art, on en vient. Non, il prêchait la vérité, il la prêchait pour qu'elle soit efficace, qu'elle émeuve, qu'elle bouleverse, qu'elle convertisse. Il n'assénait pas la vérité à coups de marteau. Il faut attendre Nietzsche pour ça, ou quelques congrégations du 19e siècle. Mais ce temps-là est fini. Jean 23 avait tenté d'y mettre fin, Paul 6 aussi. Je dis bien tenté. Est-ce qu'ils ont réussi? À vous de me le dire, je ne suis pas d'ici. Dominique prêchait une parole efficace pour convertir, pour que la conversion amène ou ramène, au moins pour un temps, à regretter des errements passés, à faire pénitence, à revenir au sein de l'Église, à être avec ses frères et ses sœurs. Je dis pour un temps parce que Dominique était réaliste, et dans ses billets, on le sait, un de ses premiers réconciliés, après quelques années, est retourné chez les cathares. Il le faisait pour leur faire goûter la joie du salut partagé. Et cela ne peut pas avoir lieu véritablement, pleinement, que dans la communauté ecclésiale, qui est composée de pécheurs, de pécheresses, de saints et de saintes en devenir, dans une communauté apostolique, incarnée, avec toutes les difficultés que ça entraîne et les contre-témoignages possibles. Mais c'est dans ce lieu que se vit véritablement la miséricorde de Dieu, telle que prêchée, vécu par le Christ. Et la réconciliation que Dominique visait n'était pas une réconciliation au rabais. Je vous invite à aller lire les petits billets de réconciliation. Il y avait un outil pédagogique et pastoral qu'on utilise fort peu désormais, le fouet. C'est-à-dire, Roger était habillé, d'une certaine manière, se dénuder quelquefois et parcourir la ville avec le curé, qui le fouettait, curé. Donc, la voie de la réconciliation n'était pas si facile que ça. On dit je t'aime, tu m'aimes, et c'est tout. Non, réintégrer la communauté, c'était difficile. Mais il savait, et on le voit aussi dans les billets, tenir compte de ce qui avait été les aspirations les plus profondes de ces hommes et de ces femmes. Une vie de discipline, un désir de rigueur. Il leur ajoutait simplement la vitalité de la prière et les sacrements et quelques bonnes bouffes par année. Vous irez lire, je n'invente pas. Enfin, la réconciliation qu'il visait, pour laquelle il prêchait sans relâche, il ne l'imposait pas. Il l'offrait. Il la déposait aux pieds des hommes et des femmes dont il s'approchait. Il l'offrait au nom de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu dans un lieu très précis. Il faisait, encore là dans les billets, injonction au pasteur local de se soucier de la personne réconciliée, de la soutenir. Il s'en remettait aussi à l'Église pour confirmer sa pratique et la vérité de la réconciliation de Roger et des autres avec Dieu et leur réception dans l'Église. Il s'est épuisé à prêcher, à réconcilier à nouveau. Pour s'aider, il a fini par instituer un ordre de prédicateurs qui vont prêcher la vérité, une vérité miséricordieuse, une vérité pour réconcilier les humains entre eux et avec Dieu, et le faire jusqu'aux limites du monde, jusqu'à la fin du monde. À Chalais, aujourd'hui, les limites du monde sont quand même larges. Vous avez un dominicain canadien, un dominicain belge, des dominicains français quand même, un peu, oui. Et s'annonce pour cet après-midi un dominicain japonais. C'est quand même, du point de vue de l'Europe, les confins du monde. L'ordre de Dominique est comme la mauvaise herbe. Ça pousse partout. Ça pousse beaucoup, à certains endroits. Et lorsqu'on arrive à l'exterminer un endroit, comme au Canada, on est presque mort, eh bien, aller en Corée, au Vietnam, dans certains coins d'Afrique, ça vit et ça pullule. Parce qu'il y a toujours besoin d'entendre une parole de réconciliation. Une parole vraie, qui permettra une vraie réconciliation. Pas, comme disait le vieux père Tia, kissy-kissy relationships. C'est-à-dire, on s'embrasse. On s'aime beaucoup, mais on s'intéresse pas à la vérité. Non, une réconciliation dans la vérité et dans la miséricorde. Ici aussi, aujourd'hui, en la fête de Saint-Dominique, la parole de Dieu a retenti. Elle nous invite à vivre de la réconciliation offerte dans le Christ. Nous allons en faire mémoire au cœur et au corps au cours de notre Eucharistie. Nous en faisons mémoire chaque fois que nous nous approchons d'un homme ou d'une femme pour leur annoncer la paix, la consolation, la miséricorde, le salut. En attendant qu'un jour, grâce à Dieu, nous soyons réconciliés tous et toutes dans le Christ à vivre de la vie de Dieu, de sa joie et de sa paix.